Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dit au jeune évangéliste Timothée, « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Loin de moi l'idée de me comparer à l'apôtre Paul, dans bien d'autres domaines, mais je puis dire la même chose que lui, en cela. J'ai moi aussi atteint la fin de mon parcours dans le ministère actif. Et ce message sera le dernier que vous entendrez de moi. J'espère, au fil des années, vous avoir été utile, vous avoir édifié, encouragé et enrichi de la précieuse vérité divine. Je prends ma retraite bien méritée, à mon avis, ce mois-ci, en juin 2023, après avoir fidèlement servi l'Église de Dieu en tant que ministre pendant 47 ans. Comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Pas n'importe quel combat. Celui d'un chrétien, d'un vrai serviteur de Christ. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, cette déclaration n'engage que moi. Je rencontre encore assez fréquemment des individus qui ont une opinion différente et s'estiment plus sages et aptes à changer ce que je dis, et cela n'engage qu'eux. Mais c'est entre moi et Dieu, comme pour vous, frères et sœurs. Comme Paul et comme beaucoup de serviteurs de Dieu, je peux dire la couronne de justice m'est réservée. À nouveau, cela n'engage que moi. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, comme je le disais il y a quelques instants. Et j'ai hâte de voir son avènement. J'estime avoir été immensément béni. Servir Dieu et son peuple a été un honneur et un privilège, et cela a été le sujet de grande joie. Grâce à notre Père Céleste et à son Fils Jésus-Christ, j'ai trouvé une épouse qui m'a accompagné fidèlement toute ma vie et a gardé le cap, s'accrochant à la vérité. Nous sommes mariés depuis 48 ans et nous avons 5 beaux enfants, dont 3 dans l'Église et 2 qui ne sont pas encore appelés. Il y a dans notre maison beaucoup de rire et de joie. Nous sommes bénis, mais les forces me quittent. À l'heure où j'enregistre ce message, je m'apprête à subir une opération au cœur, le remplacement de ma valvule aortique défectueuse, et 3 ou 4 semaines plus tard, je me ferai opérer d'un cancer dans le poumon gauche. Le pronostic est bon. Je devrais être guéri. Peu importe. Je suis entre les mains du meilleur des médecins, mon Père Céleste, et après ces opérations, rien ne sera plus comme avant. Ils vont probablement m'enlever une partie du poumon, et il sera probablement plus difficile de respirer. Alors mes forces diminuent. J'ai confiance. J'ai prié mon Père Céleste de me donner sa paix, et il l'a fait. Je suis en mesure de vous dire, grâce à Dieu, que j'ai accompli la tâche pour laquelle Dieu m'a appelé il y a environ 55 ans. J'ai prêché plusieurs centaines de sermons à plusieurs milliers de personnes. J'ai traduit plusieurs centaines de publications et d'articles qui tous ont été publiés. J'ai traduit ou remanié les 186 cantiques de notre livre de cantiques. Et nous avons maintenant un livre de cantiques, en français. J'ai traduit et doublé plusieurs centaines d'émissions télévisées du Monde à venir et un certain nombre de présentations vidéo. J'ai annoncé l'émission radiophonique du Monde à venir pendant des années. J'ai étudié à l'Ambassador College en Angleterre et au Texas et j'en suis diplômé. J'ai enseigné à l'Ambassador College en Angleterre et au Texas. Je me suis rendu dans 17 pays. J'ai proclamé la bonne nouvelle de l'instauration proche du royaume de Dieu à plusieurs milliers d'enfants de Dieu, et bien davantage. Mais peu importe mon palmarès, Dieu connaît mon cœur. J'ai 75 ans, mon parcours s'achève. J'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, il y a un moment dans nos vies où nous savons que nous resterons fidèles à Dieu jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Un moment où notre Dieu d'amour nous a accordé sa paix. La sérénité que nous apporte son Saint-Esprit quand nous sommes en fin de parcours, quand nous savons que nous sommes entre ses mains bienveillantes, qu'il nous a conquis, et qu'il achève en nous ce qu'il a commencé. Nous avons tous un cheminement différent. Nous avons tous reçu des dons ou des talents différents que nous devons mettre à son service pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons tous une histoire. Si nous gardons les yeux fixés sur Christ et le royaume, cette histoire se terminera bien. Ce sera une belle histoire. Cette histoire est faite d'échecs et de victoires, de joie et de chagrin. Mais par eux, nous croissons, développant un caractère saint. Quelle place a la vérité dans votre vie ? Pour moi, avant même que Dieu ne m'ouvre l'esprit à la compréhension de sa merveilleuse vérité, je recherchais la vérité, même si elle faisait mal, même si elle me mettait mal à l'aise. Et cette recherche de la vérité a orienté ma vie. Dans tous mes messages, j'ai toujours recherché la vérité. Pas la mienne, mais celle de Dieu. Y suis-je parvenu? Oh, imparfaitement, je l'avoue, mais sincèrement. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas ma vérité, c'est celle de Dieu. Et cette vérité, n'importe qui peut la trouver dans la Bible. Et si nous la désirons sincèrement, Dieu nous la donne. Et vous avez indubitablement pu comparer cette vérité à ce que je vous disais. Comme Paul l'a dit, que Dieu soit reconnu pour vrai et, par comparaison, tout homme pour menteur. Dieu pour vrai. Nous disons la vérité quand nous citons fidèlement Dieu. J'estime vous avoir dit la vérité et espère avoir peu divagué. Dans mes 47 ans dans le ministère de Jésus-Christ, j'ai été témoin de grandes choses, d'événements merveilleux et inspirants, de miracles spectaculaires, de beaucoup de gentillesse et d'amour. Mais j'ai été aussi témoin de bien des tempêtes. Comme vous, j'ai traversé des plaines verdoyantes, mais aussi d'abruptes montagnes et des déserts. Il y a eu des hauts et des bas, mais Dieu m'a corrigé, souvent, comme je l'espère chacun de vous, et j'ai aimé ces corrections, car elles m'ont permis d'être qui je suis. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Dieu nous prépare. Reportons-nous à Hébreux chapitre 12, verset 7. Hébreux chapitre 12 et le verset 7. Hébreux 12, 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Certains ont besoin d'être corrigés plus que d'autres, mais nous avons tous besoin d'être corrigés. Si nous souhaitons sincèrement devenir comme Dieu, cela ne devrait pas nous déranger. Mais celui qui nous corrige, c'est Dieu, par sa parole. Les ministres, souvent, pas toujours. Dans mes 47 ans de ministère, j'ai vu des abus. Mais j'ai aussi vu beaucoup de vrais bergers qui se souciaient des brebis de l'Éternel et qui dispensaient droitement les paroles de l'Éternel. Christ nous a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. J'ai vu des vrais chrétiens et j'ai vu de l'ivraie. Dieu nous juge. En fin de parcours, en rétrospective, je m'aperçois que, et là j'ai plusieurs observations que je voudrais vous donner en ce dernier message, je m'aperçois que notre appel est individuel, premier point. Notre appel est individuel. Nul ne peut se glisser dans le troupeau tel un mercenaire, s'imaginant qu'il trompera ainsi l'Éternel. Dieu n'est pas dupe. Jean 6, 44, et nous allons voir aujourd'hui un certain nombre de versets que vous avez dû lire des quantités de fois, mais rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours la même chose, mais nous devons nous accrocher à ces vérités. Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et verset 65, il répète cette idée. Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Nous avons toujours des mercenaires parmi nous, de temps à autre, ici et là, qui pensent tromper Dieu. La deuxième remarque que j'ai en ce dernier message aujourd'hui, c'est que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Romains 14, 12, Romains chapitre 14 et verset 12, je citerai un certain nombre de versets aujourd'hui, peut-être un peu plus que d'habitude. Romains 14, 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Matthieu 12, verset 35. Matthieu 12 et le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, si son trésor est bon, évidemment. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné en fonction de ces paroles. Pour les convertis et les vrais chrétiens qui se sont repentis, ce sera évidemment différent. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6, 2 Corinthiens 5 et le verset 6. De Corinthiens 5, 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et à nouveau, là, c'est une déclaration générale. Pour nous autres qui sommes dans l'Église, nous sommes jugés maintenant, nous apparaissons maintenant devant le tribunal de Christ. La troisième chose qui m'a frappé au fil des années et qui reste dans mon esprit, c'est que, troisièmement, la parole de Dieu doit toujours être notre ancre. La parole de Dieu doit être notre ancre, c'est l'ancre de l'âme. C'est la seule vérité. Nous autres humains, nous avons nos petites idées sur toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui va être notre ancre? C'est la vérité, et cette vérité, c'est la Bible. Jean chapitre 17, verset 17. À nouveau, nous connaissons ce passage probablement par cœur. Dans bien des cas, nous l'avons mémorisé. Jean 17, 17. Christ, dans sa prière avant de mourir, avant de souffrir énormément pour nous, a dit cela au Père, « Sanctifie-les par ta vérité. » Oh, pas une vérité humaine, mais sa vérité, la vérité de Dieu, qui est la seule vérité finalement. Sanctifie-les par ta vérité, sanctifie-les, mets-les à part, dans une catégorie à part, par ta vérité. Ta parole est la vérité. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, 2 Timothée 3, 16, à nouveau nous connaissons ces passages, 2 Timothée 3, 16. Ce sont des rappels, simplement, et peut-être un peu un avertissement pour chacun de nous qui vivons les derniers temps, qui vivons dans une époque où tout se corrompt, où il n'y a plus que mensonge autour de nous, et un mensonge qui nous affecte aussi et qui, quelquefois, même se trouve dans l'Église, malheureusement. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, insufflée de Dieu dans l'original. Quatrièmement, nous devons être sincères, honnêtes et courageux. Et Jésus a souvent cité ces qualités qui sont très importantes pour un chrétien, sincère, honnête, courageux. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10 et le verset 19. J'espère que mon dernier message vous donnera matière à réflexion. Ainsi donc, frères, Hébreux 10, verset 19, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la nouvelle route, ou la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sommes-nous sincères? David, ayant rassemblé tous les matériaux pour la construction du temple que son fils Salomon allait ériger, pria l'Éternel en ces termes. 1 Chronique 29, verset 17. 1 Chronique chapitre 29 et le verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur. Et c'est ce qu'il fait pour nous, frères et sœurs. Il sonde nos cœurs. Je sais que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Sommes-nous droits? Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Je l'espère. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Inspirons-nous des paroles de l'Éternel à Josué avant que son serviteur conduise Israël dans la terre promise. Josué 1 et le verset 7. Josué chapitre 1 et le verset 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En somme, nous nous apprêtons tous, nous aussi, à entrer dans la terre promise, mais une terre promise spirituelle. La cinquième chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de fraterniser avec le peuple de Dieu. Je répète, nous avons besoin de fraterniser avec le peuple de Dieu. Dans la mesure du possible, je sais que malheureusement, nous avons un certain nombre de nos membres, de nos frères et sœurs qui sont réellement isolés. Mais dans la mesure du possible, si vous vous trouvez proche d'une église, il est de votre devoir de fraterniser avec ceux qui font partie du corps de Christ. Nous sommes un corps. Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux chapitre 10 et le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Cela a été écrit il y a près de 2000 ans et c'est toujours aussi valable aujourd'hui, n'est-ce pas? La sixième remarque que je voudrais faire, c'est que nous avons tous des dons ou des talents différents que nous devons faire valoir. Matthieu chapitre 24, ou 25 plus exactement, Matthieu 25 et le verset 14. Matthieu 25 et le verset 14. Essayez de déterminer où vous vous situez dans cette parabole. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il est clairement question de Christ qui nous a confié une tâche à tous, si vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il donna 5 talents à l'autre, à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Il est parti il y a 2000 ans, quasiment. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir, il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Tous les deux ont doublé leur mise. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, même chose. » Entre dans la joie de ton maître. Quelle bénédiction! Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » C'était son idée. C'était pas la réalité, mais c'était son idée. C'était sa manière de juger. « Oh, je sais que tu es un homme dur et que tu moissonnes où tu n'as pas semé. » Il avait l'esprit réellement tordu, celui-là. « Et qui amasse où tu n'as pas vanné. » J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, c'est ce que tu dis, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Il y a une certaine ironie dans cette réponse de Christ. « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au moins, c'était le minimum que tu pouvais faire. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Façon de parler, tournure de Francis. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des regrets. Il sera trop tard. » Ce que j'ai remarqué aussi, frères et sœurs, cet aimant, c'est que nous sommes tous précieux aux yeux de Christ. Nous sommes tous précieux aux yeux de Christ et de notre Père Céleste. Dans le livre de Malachie, Dieu dit de ses enfants qu'ils sont, pour lui, son précieux trésor. Malachie chapitre 3, verset 17, Malachie 3, 17. Malachie chapitre 3 et le verset 17. Et je prendrai la version Martin, car la plupart des autres versions ont mal traduit ce verset, ce passage. Regardez ce qu'ils disent dans la version Martin. « Ils seront miens, a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux. » Je mettrai à part mes plus précieux joyaux. C'est vous et moi. Je parle aux convertis. Mes plus précieux joyaux. Et je leur pardonnerai ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. À son fils qui le sert. Pas n'importe qui. Convertissez-vous donc et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a point servi. La Bible du Semeur a aussi bien traduit ce passage au verset 17, et voici ce que l'on peut lire. « Ces gens seront pour moi un trésor précieux. » Et c'est cela le sens de l'original. « Ils seront pour moi un trésor précieux. » Voilà ce que Dieu ressent à notre égard, à l'égard de ses enfants. « J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. » À nouveau, un fils qui le sert, ou une fille qui le sert. Nous sommes, comme l'a dit Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Reportons-nous à 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. À nouveau, c'est un passage que nous connaissons bien, mais c'est notre histoire, c'est ce que nous sommes, c'est notre identité. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que vous annonciez maintenant, mais aussi futur, dans le royaume, durant le millénium, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, et c'est ce que nous sommes, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce que j'ai remarqué aussi pendant toutes ces années, c'est que, huitièmement, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Philippiens 2, où il y a bien des versets sur l'humilité, mais un des versets typiques est justement celui-là. Paul parlant aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 3. Ces points que je vous donne, c'est matière à réflexion. C'est un peu mon héritage. Nous devons être humbles. Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. C'est facile de le dire, mais ce n'est pas aussi facile de le pratiquer. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ce que nous faisons naturellement, considère aussi ceux des autres. Pierre, lui aussi, a insisté sur ce point. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Neuvièmement, nous devons être de bons auditeurs et réfléchir avant de parler. Et cela s'applique à moi aussi. Nous autres humains, nous sommes prompts à parler, à donner nos opinions, comme si nous étions des experts en toutes choses. Mais la sagesse divine est-elle en nous ? Ce que nous disons, ce que nous prononçons, est-ce que c'est réellement ce que Dieu pense ? Nous devons être de bons auditeurs, et réfléchir avant de parler. Zip ! Je me dis bien souvent que, vous savez, on dit le silence est d'or. Le silence est d'or. Vous pouvez penser certaines choses, mais souvent, la meilleure chose à faire, c'est zip ! De fermer la bouche, de ne rien dire. Jacques chapitre 1, verset 19, Jacques chapitre 1, verset 19, parle de cela. Jacques chapitre 1 et le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, tout homme et toute femme, incidemment. Que tout homme, que toute femme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et que nous avons, nous autres humains, nous tous, autant que nous sommes, de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Dixièmement, nous ne devons pas nous fier sur notre propre raisonnement. Nous ne devons pas nous fier sur notre propre raisonnement ou sur notre prétendue sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe 3, 5. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. Chaque mot est important. Confie-toi en qui ? En l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous pensons tous que nous avons raison. C'est humain. Nous avons nos opinions, nous avons nos façons de voir les choses, mais est-ce que c'est la pensée divine ? Est-ce que c'est comme ça que Dieu pense ? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Jérémie 9, 23. Même chose, Jérémie chapitre 9, verset 23. Dieu met l'accent sur cela. Jérémie 9, 23. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. En général, le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mais parfois, il le fait. Si nous avons un vrai sage, lui, le vrai sage, ne se glorifie pas de sa sagesse. Mais souvent, nous avons des gens dans le monde qui se prennent pour des sages, qui ont une certaine éducation, une certaine culture, et ils pensent qu'ils savent tout. Que le fort ne se glorifie pas de sa force.
Oh, je suis fort, je n'ai rien à craindre, j'ai les muscles qu'il faut.
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. J'ai tout l'argent du monde, j'ai le pouvoir, je peux faire ce que je veux. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Il y a des bons riches et il y a des mauvais riches. Et il y a des riches qui montrent leurs dollars à tout le monde, ou leurs euros, ou tout ce que vous voudrez à tout le monde, et qui se glorifient de leur richesse comme si c'était ce qui comptait le plus dans le monde. Que le riche ne se glorifie pas de sa sagesse, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Pas n'importe quelle sorte d'intelligence, de me connaître, de connaître Dieu. C'est cela la vraie sagesse, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce quoi ? La bonté, le droit et la justice sur la terre. Chacune de ces choses, on pourrait en faire un sermon. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Onzièmement, nous devons toujours chercher à nous améliorer. Un chrétien doit toujours chercher à s'améliorer, à croître, à nous cultiver, mais en apprenant ce qui vaut la peine, ce qui en vaut la peine. Il y a toutes sortes de connaissances triviales aujourd'hui. Et pour beaucoup de gens, ils savent des choses qui, franchement, n'ont aucune importance. Alors, de quoi est-ce que nous nous remplissons l'esprit ? Des trivialités, souvent. Nous devons chercher à nous améliorer, mais à croître, mais en quoi ? À penser comme Dieu, comme lui, c'est ça la clé. Pas penser comme le monde, ce que le monde pense, ce que les artistes pensent, ce que les vedettes pensent, ce que les politiciens pensent. Ça a peu d'importance, pour ne pas dire pas du tout. Mais penser comme Dieu, ça, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. 2 Pierre 3, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. 2 Pierre 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut et que Dieu est patient. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Pierre avait des problèmes de personnalité avec Paul, mais il reconnaissait à la fin de sa vie que Paul était réellement un vrai serviteur de Dieu. Et plus tard, il s'est mis à le respecter beaucoup. Paul l'a remis à sa place, comme vous le savez. C'est ce qu'il a fait, Paul, dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Alors même Pierre, il y a des moments, il n'est pas tout à fait sûr de ce que Paul voulait dire, comme vous aujourd'hui. Il y a des moments, nous lisons les écrits de Paul, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce qu'il disait, de ce qu'il voulait dire. Dans l'ensemble, nous avons suffisamment de compréhension pour notre parcours, mais nous ne comprenons pas toujours qu'est-ce que Paul avait dans la tête comme idée. C'est profond. Alors il dit, il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens et que nous avons des gens qui tordent le sens de ce que Paul a dit en disant qu'il y avait une philosophie pauline ou un évangile paulien et que Paul disait les choses différemment de Christ, ce qui n'est pas vrai du tout. Si vous savez lire les Écritures, vous verrez que Paul, au contraire, affirmait ce que Christ avait dit. Il y en a qui tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Et il y en a beaucoup comme cela. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous développer, toujours chercher à nous améliorer, comme je le disais. Croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pas n'importe quel domaine. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Douzièmement, ce que j'ai remarqué, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Luc 20, Christ a même parlé de cela, les apparences sont trompeuses. Vous avez des gens qui accomplissent beaucoup de choses, mais bon, quelquefois c'est sincère, mais pas toujours. Souvent c'est pour la frime, souvent c'est pour se faire valoir. Alors faisons attention. Luc chapitre 20, verset 46, Luc 20 et le verset 46. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Luc chapitre 6, verset 45, Luc chapitre 6 et le verset 45, toujours dans Luc, mais quelques pages auparavant. Luc chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, ou du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous nous révélons par ce que nous disons. Pas toujours. Mais souvent. Et au verset 46, il dit quelque chose de très important. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Oh, il y a des millions de gens qui disent Seigneur, Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai ce qui est semblable, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend ces paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce que notre maison est bien bâtie? Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement ou sur le sable. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Matthieu 7, 21, nous connaissons ce passage, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, ça ne suffit pas. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Treizièmement, ceux qui cherchent à tout prix à prêcher sont généralement ceux qui doivent garder la bouche fermée. Je répète, ceux qui cherchent à tout prix à prêcher sont généralement ceux qui doivent garder à tout prix la bouche fermée. Se taire et écouter. Tite chapitre 1, verset 7. Tite chapitre 1, verset 7. Tite chapitre 1, verset 7. Il faut que l'évêque ou l'épiscope, en grec épiscopos, intendant, responsable ou dirigeant, soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant et qu'il y a de l'arrogance dans quelqu'un qui prétend être suffisamment bon pour enseigner les autres. Ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, parce qu'il y en a qui aiment se faire payer pour ça. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Cela ne décrit pas en général les gens qui insistent absolument à prêcher. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, les juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Pour terminer, l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans mes 40 ans de ministère actif, c'est que, quatorzièmement, Dieu accomplit son œuvre en dépit de nous. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Dieu accomplit son œuvre en dépit de nous, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos faiblesses. De même que les disciples et les apôtres de Jésus avaient des faiblesses qui sont souvent évidentes à la lecture des Écritures, les ministres de l'Église de Dieu ne sont pas parfaits. Comme vous le savez, je ne suis pas parfait, j'ai commis mes erreurs aussi. Souvent, je pense que j'ai été sincère dans ma vie, mais j'ai commis des erreurs, je me suis trompé. Et il y en a qui sont toujours à ressasser le passé comme s'ils étaient mes juges. Ben, cela m'importe peu. Et je pense que chaque ministre probablement peut dire, ben oui, je me suis trompé. Oui, mais je me suis repenti sincèrement et j'ai toujours été sincère, frères et sœurs. J'ai toujours été sincère. Mais vous savez, quelquefois, même si vous donnez des explications, vous expliquez le contexte de ce qui s'est passé, etc., on ne vous écoute pas parce que on s'estime plus sage ou on aime bien critiquer. Peu m'importe, frères et sœurs, peu m'importe. En fin de parcours, je suis content de pouvoir dire à Dieu, je t'aime, je vous aime tous les deux. Vous êtes les êtres les plus merveilleux dans l'univers, j'ai hâte de faire partie de votre royaume. Et peu m'importe ce que les gens disent, si vous êtes tous les deux contents de moi, il n'y a que cela qui compte pour moi. Le reste, je m'en moque éperdument. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Les ministres de l'Église de Dieu ne sont pas parfaits, ils ont leurs propres faiblesses. Écoutez-les tant qu'ils vous prêchent la vérité. Au temps de la fin, il importe plus que jamais que nous soyons fermement ancrés dans quoi? Dans la parole de Dieu. Sachez aussi faire la différence entre les opinions personnelles et ce que dit la Bible. Accrochez-vous fermement à la parole de Dieu. Nous autres ministres, nous sommes humains et nous avons nos opinions. Et parfois, nous donnons nos opinions. C'est pour ainsi dire inévitable. Si ces opinions sont bonnes, ça va, mais quelquefois ces opinions sont simplement des opinions qui ne sont pas bibliques. Alors sachez faire la différence entre, et cela viendra tôt ou tard, sachez faire la différence entre ce qu'on vous dit, est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est une opinion, l'opinion d'un individu. Et cela me rappelle 1 Corinthiens 1, 26. 1 Corinthiens 1, 26. Reportons-nous à ce passage. Rappelons-nous qui nous sommes, nous tous. Qui nous sommes, d'où nous venons. 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, vous qui m'écoutez, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, même aux yeux du monde, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde, pour confondre les fortes. Cela s'applique à moi aussi, à nous tous. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Parce qu'un jour, Dieu va pouvoir dire à ceux à qui il ouvrira l'esprit dans son royaume, si j'ai pu travailler avec celui-là, si j'ai pu travailler avec Bernard Angerlot, ben, je vous garantis que je peux travailler avec vous. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, évidemment, il faut que la personne soit disposée à écouter aussi. Je ne suis pas un grand de ce monde, je ne suis pas un sage de ce monde. Et qui parmi nous en est? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il n'est pas dit ici afin que, bon, que certains se glorifient devant Dieu. Non, personne. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Oh, c'est un passage formidable qui nous ramène à notre niveau, au niveau où nous devons nous trouver, qui nous rappelle notre petitesse. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, et il répète, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous voulez vous glorifier dans quelque chose? Glorifiez-vous dans Dieu, en faisant ce qu'il vous dit, en étant humble, en vous souvenant de qui vous êtes, ou du peu que vous êtes, ce qui s'applique à nous tous. Matthieu 23, Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Oh, c'est des gens importants. Hein. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi ». Mais vous, vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Rabbi, maître. Rabbi, ça veut dire maître. Et n'appelez personne sur la terre votre maître, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Choisissez donc vos maîtres prudemment. À bon entendeur, salut. Les disciples demandèrent un jour à Christ quand aurait lieu la fin de l'ère présente et son retour. Matthieu 24, verset 3, Matthieu chapitre 24 et le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier, ou en privé, comme c'est dans certaines versions, en privé, lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que c'était possible, parce que c'était même courant. Faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs, ou beaucoup, même dans certaines traductions, beaucoup viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et que cela décrit notre époque, n'est-ce pas? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, des famines, des épidémies dans Luc. Luc ajoute des épidémies aussi. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Êtes-vous prêt à être haï de tout le monde? Nous allons être haïs de tout le monde. Sommes-nous prêts? C'est pas facile d'avoir des gens qui vous crachent au visage, qui vous haïssent et qui vous poussent et qui vous maudissent. C'est pas facile. Êtes-vous prêt? Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous lisons ce passage assez souvent parce que c'est facile pour nous, en voyant toute l'iniquité qu'il y a autour de nous, de devenir dur, de nous endurcir, n'est-ce pas? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais persévérera comment? Dans la bonne voie. Il ne s'agit pas de dire, bon, bah, dès l'instant que je vis humainement parlant jusqu'au retour de Christ, tout ira bien. Non! Il est ici question dans tout le contexte, et le contexte dans toute chose est très important. Le contexte ici, c'est celui qui persévérera dans la bonne voie, jusqu'à la fin. Qui combattra le bon combat, qui aura gardé la foi. Pour moi, la fin approche. Ma tâche s'achève. J'ai combattu le bon combat. À nouveau, cela ne regarde, n'engage que moi. Vous avez peut-être une opinion différente, mais qu'à cela ne tienne, Dieu m'a donné la paix pour cela. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la mission pour laquelle mon Père Céleste m'a appelé. Il y a des moments où je me suis dit peut-être il y avait autre chose que je devais faire aussi, mais Dieu m'a montré que non. Dieu m'a appelé pour une tâche bien précise que j'ai accomplie et que je vous ai décrite il y a quelques instants. J'ai accompli la tâche pour laquelle Dieu m'a appelé dans son Église. J'en suis absolument convaincu et j'ai la paix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Reportons-nous pour terminer à Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Et je ne cherche pas à me faire valoir, bien au-delà. Et j'espère que vous me comprenez. Jacques chapitre 1, verset 12, Nouvelle Bible seconde. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Et que j'aime ces deux êtres extraordinaires qui sont mon Père et mon Sauveur, que je les aime. Avez-vous une relation étroite avec Dieu? Je les aime de tout mon être, je leur parle souvent, je suis confortable dans cette relation. J'ai la paix. Ma contribution à l'œuvre francophone s'achève. Je remercie mon Père Céleste de m'avoir fait cet honneur et de m'avoir guidé tout du long. C'est lui qui m'a guidé tout du long. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. À la fin de notre parcours, l'Éternel ferme des portes devant nous et nous indique dans son amour que nous ne nous engagerons pas dans certains projets. Mais l'œuvre divine continue et elle connaît une croissance. Une merveilleuse croissance. Et notre site est très visité. Il y a des graines qui sont semées. Et ça, c'est très encourageant. Ma course s'achève. Je prie que la vôtre s'achève pareillement. Le moment venu. Je vous souhaite à tous bon courage. Je continuerai de prier pour vous tous. Afin que nous nous retrouvions un jour dans le merveilleux royaume de Dieu. Au revoir.